Chapitre 11. Juan Griffin, enquêteur de la police d'État de Rhode Island, avait une voix d'ours et était solide comme un roc. Un costaud. Le genre capable de soulever des voitures après avoir envoyé des sumos au tapis et plaqué des piliers de rugby. Beau gosse en plus. L'officier au regard d'azur l'avait surnommé le Providence Journal quelques années plus tôt, quand il avait joué les mannequins dans le show de David Letterman pour présenter les nouveaux uniformes de la police d'État qui venaient d'être primés. À dire vrai, les policiers de Rhode Island avaient la réputation d'être les plus beaux de toute la Nouvelle-Angleterre. Personne ne savait l'expliquer. Y avait-il une usine qui sculptait tout exprès des hommes aux épaules larges, aux torses puissants et à la mâchoire carrée? En tout cas, chaque fois que se présentait l'occasion d'une formation et d'un partage d'expérience avec leurs collègues de Rhode Island, les enquêtrices du Massachusetts se précipitaient pour s'inscrire. Toutes les trois. En attendant, Didi était au téléphone avec Griffin. Dommage, vraiment, surtout que le commissariat central de Providence ne se trouvait qu'à une heure de route au sud et qu'il y avait d'excellents restaurants où déjeuner dans le quartier de Federal Hill. Elle était en train de manquer une occasion de faire du tourisme et de manger italien. Tu parles d'une amélioration de la qualité de vie. Griffin était mariée. Remariée, en fait, sa première femme étant morte d'un cancer. Madame Griffin, numéro 2, était cadre dans une agence publicitaire. Gillian, une blonde. Didi ne l'avait jamais rencontrée, elle ne la connaissait que par voie de presse. Quelques 8 ans plus tôt, Gillian avait en effet survécu au célèbre violeur de College Hill. Sa sœur cadette n'avait pas eu autant de chance. Quand l'auteur présumé des agressions avait finalement été arrêté, Gillian avait formé un groupe, le Club des survivantes, pour qu'elles se soutiennent les unes les autres pendant le procès. Sauf qu'il n'y avait jamais eu de procès parce que le suspect avait été abattu sur les marches du tribunal, et que Gillian et les membres de son club étaient passés du statut de sympathique victime à celui de principale suspecte. Didi aurait volontiers reconnu qu'elle avait suivi l'affaire avec autant de zèle que Nancy Grace, la reine du talk-show judiciaire, surtout quand, quelques jours après l'assassinat du violeur présumé, une autre femme avait été agressée. Franchement, il y avait des jours dans ce boulot où elle ne voyait pas comment même un auteur de polar aurait pu inventer des scénarios pareils. Griffin et Gillian avaient aujourd'hui 2 garçons. Âgé de 4 et 6 ans, apprenait Didi. Le plus jeune, Dylan, suivait les traces de son père et ne jurait que par le football. Celui de 6 ans, Sean, avait récemment découvert la cuisine. Au point que, la veille au soir, il avait préparé un carré d'agneau pour toute la famille.
« Mariné dans de la mélasse de grenade », expliquait Griffin. « Mais je soupçonne sa mère de lui avoir donné un coup de main.
Il n'a que 6 ans. Comment il peut ne serait-ce que soulever un plat à rôtir pour le mettre dans le four ?»
« Oh !» répondit gaiement Griffin. « Il tient ça de moi. »«
Et le four brûlant, ce n'est pas un problème ?»«
C'est Gillian qui s'est chargée de ressortir le plat, et elle l'a aidé à saisir la viande sur le feu, mais c'est lui qui avait trouvé la recette. »«
Où ça ? Sur la couverture d'une de ses BD ?»«
Il avait emprunté un livre de cuisine à la bibliothèque. Il aime apprendre à faire les choses. Jamais de roman, mais il rapporte des livres pour apprendre à jardiner, à fabriquer des robots, à construire des bateaux. Maintenant, j'imagine que ce sera pour apprendre à cuisiner.
Un carré d'agneau. Incroyable.
Surtout que c'était à tomber. Je suis prêt à lui ouvrir un compte d'épargne pour qu'il aille dans une grande école de cuisine.
Je ne sais pas encore si Jack saura cuisiner, dit Didi. Mais hier soir, il a régurgité un truc qui pourrait bien passer pour de la mélasse. Griffin éclata de rire. C'est l'avantage avec les parents et les enquêteurs de la criminelle. Rien ne les débecte jamais. Didi pouvait raconter des histoires de couches sales à longueur de journée, et ses collègues trouvaient ça mignon tout plein. Elle se demandait parfois comment vivaient les gens normaux.
« Il dort la nuit ?» demanda Griffin.
« Pas du tout. Tu as essayé les balades en voiture ?»«
Non, trop peur de m'endormir. »«
Et la journée, il fait des siestes ?»«
Quelquefois. » Quand il est dans les bras ou dans le porte-bébé, il tombe comme une masse.
Je vois, dit Griffin avec entrain.
Tout bébé, Dylan, n'était pas un gros dormeur. Je l'emmenais faire un petit tour en voiture dans le siège auto, ça l'assommait aussi sec. Ensuite, je rentrais et je posais son cosy directement dans le berceau, sans le détacher ni rien. Ça a été radical pendant quelques semaines. Et puis, assez vite, on a pu le coucher directement dans son berceau. Peut-être que le cosy l'avait aidé à s'y habituer, je n'en sais rien, mais ça a été efficace.
Didi faisait la moue, acquiesçait. Ça vaudrait le coup d'essayer. Sinon, autant signer tout de suite pour l'asile. Elle se rendit compte un peu tard qu'elle n'aurait peut-être pas dû dire ça.
Avec le passé de Griffin, ce léger incident avec le Candyman, la dépression nerveuse qu'il avait faite et le congé maladie qu'il avait dû prendre. Mais Griffin rit une nouvelle fois imperturbable. Didi prit cela comme le signe que sa nouvelle famille le rendait heureux. Elle l'espérait. Griffin était un type bien et un excellent enquêteur. S'il avait trouvé le bonheur, il y avait peut-être de l'espoir pour les autres. « Bon, reprit-elle, aussi adorables que soient nos enfants, c'est en fait pour une affaire que je t'appelle. Randy Menck, assassiné à Providence il y a 2 ans. Je crois que la police d'État a été chargée du dossier parce que vous aviez déjà une enquête pour fraude ouverte contre le principal suspect. »«
John Menck, dit aussitôt Griffin. Un répugnant personnage.
Tu crois que c'était le coupable ?
C'est clair qu'à l'époque, j'aurais parié ma carrière dessus. Mais ça m'aurait coûté cher, vu le deuxième meurtre 1 an plus tard.
Jackie Knowles, donc tu en as entendu parler ?
Oh, juste une petite 50aine de fois. Son amie, Charisse, Chartreuse...
Charlène, Charlie.
C'est ça, dit Griffin avec un claquement de doigts. Charlie, quelque chose Grant. Elle a pratiquement fait le siège de nos locaux. Pour nous informer qu'elle désirait que justice soit faite, toute affaire cessante.
Ton avis ?
Nouveau soupir.
Putain, on est le 18 janvier. Plus que 3 jours. Quelle merde.
Griffin cessa de murmurer, rassembla ses idées.
Bon, je ne peux parler que de la scène de Providence et il n'y avait pas grand-chose à en dire. Les premiers intervenants ont trouvé une maison silencieuse. La porte d'entrée était fermée, mais pas à clé. Dans le salon, ils ont découvert une femme à terre. Elle avait l'air tellement paisible qu'un des gars s'est agenouillé pour commencer une réanimation. C'est seulement en se penchant sur elle qu'il a vu les ecchymoses autour du cou et compris qu'elle était morte.
Tout habillée ?
Elle portait une sorte de jogging classe, vert foncé, pantalon, t-shirt blanc à manches longues, veste assortie. Grosse chaussette blanche. Chaussons fourrés. Des vêtements pour coucouner, si je reprends l'expression d'un enquêteur. Comme si elle s'était préparée à passer une petite soirée tranquille et qu'on avait sonné à sa porte.
Didi considéra ces éléments. En règle générale, les femmes ne portent pas de jogging ni de grosses chaussettes quand elles attendent la visite d'un homme, donc elles se rangeaient à leur théorie. Randy était à la niche pour la nuit.
La télé ? Quand les collègues sont arrivés, est-ce qu'elle était allumée ? Et les lampes ?
La télé était éteinte, et toutes les lampes aussi.
« Vous avez relevé les empreintes sur les interrupteurs ?»
le coupa Didi.
« À ton avis ?» ironisa Griffin. « Que dalle, l'assassin portait à coup sûr des gants, et puis c'est moins tangible, mais je dirais qu'il connaissait les lieux. »«
Qu'il s'y sentait bien. » »«
Comme s'il était arrivé, qu'il avait fait son affaire et tout remis en ordre. Et tant qu'il y était, passait le balai et donnait un coup d'éponge dans la cuisine avant d'éteindre. En tout cas, la scène de crime était nickel. » Si on fait abstraction du cadavre, évidemment.
Alors peut-être qu'il y a eu lutte, contra Didi. Peut-être que Randy s'était défendu comme une lionne et que ça a obligé le criminel à nettoyer derrière lui.
Possible. Mais pas de traces de violence sur le corps. Pas de blessure de défense, pas d'ecchymose. En somme, c'est comme s'il s'était pointé, qu'il l'avait étranglé et point.
Ça fait plusieurs fois que tu dis « il ». Tu penses que l'agresseur était un homme ?
C'était l'hypothèse du légiste. Pas facile d'étrangler quelqu'un à main nue. Ça nécessite un peu de muscle, mais aussi de la force dans les doigts. Randy était une femme de taille moyenne, 1m65, 60 kilos. Elle faisait du pilates 4 fois par semaine. En théorie, le coupable devait être plus grand et plus fort pour la maîtriser aussi rapidement.
Et John Menck ?
Un vicelard. 1m85, 90 kilos, en forme. Il passait 4 à 5 matinées par semaine au club de sport. Apparemment, il pensait qu'un médecin devait avoir le physique de l'emploi. Nous avons découvert que ses collègues féminines n'y étaient pas insensibles.
Coureur de jupons ?
Clairement pas monogame.
Randy était au courant ?
C'était un des motifs du divorce. À quoi il faut ajouter qu'il aimait se défouler sur elle à coups de poing.
Des preuves ? Demanda aussitôt Didi.
Pour ça, oui. Faut reconnaître que Randy avait pris ses précautions avant de quitter ce salaud. Elle avait appelé un numéro d'aide aux femmes battues pour prendre conseil. Remplit tout un coffre-fort de photos et de comptes-rendus de consultation aux urgences avant d'appeler l'avocat pour engager la procédure. Et tu peux me croire, Menck était furax. Non seulement sa femme le quittait, mais en plus elle lui collait une étiquette de mari violent et elle l'obligeait à lui verser une pension alimentaire. Ouais, Menk avait toutes les raisons de vouloir sa mort et il était parfaitement capable de s'en charger.
Mais...
Alibi, expliqua Griffin. Une serveuse de bar, note bien, une jolie minette qui, devant ses pectoraux, son bulletin de salaire et sa Porsche, s'empressait sans doute d'oublier qu'il battait sa femme. Mais il se trouvait dans un bar et plusieurs habitués ont confirmé. On n'a jamais réussi à démonter ça.
Didi réfléchissait. Tu dis qu'il filait des trempes à sa femme.
Ouais. Lèvres tuméfiées, yeux au beurre noir, un genou en vrac après un coup de pied.
Du mal à se contrôler, on dirait.
Exact.
Alors que la scène de crime semblait l'œuvre d'un individu pleinement maître de ses actes, reconnut Griffin.
C'était le deuxième obstacle à des poursuites contre Menk. D'un côté, il semblait logique de le soupçonner, mais de l'autre, on sentait que la méthode ne lui correspondait pas. Lui aurait mis la maison sans dessus-dessous, et puis, d'après notre criminologue,
les maris violents qui finissent par tuer leurs femmes les défigurent presque systématiquement.
Une balle en plein visage, des dizaines de coups de couteau. C'est une agression personnelle, barbare, déshumanisante. Là, c'était un crime de sang-froid.
Plus proche d'une exécution par un tueur à gages.
Et c'est devenu notre deuxième théorie.
Oh, dit Didi en ouvrant de grands yeux. Menk aurait payé quelqu'un pour supprimer son ex devenue gênante.
Oui, c'est ma théorie. Elle a tenu la corde un moment, et c'est peut-être encore la meilleure à ce jour, mais nous n'avons pu retrouver trace d'aucune transaction financière. Cela dit, les fédéraux enquêtaient sur lui pour escroquerie à l'assurance santé, et les circuits financiers étaient longs et complexes. On soupçonnait fortement qu'il se livrait à un petit trafic de médicaments sur ordonnance, ce qui lui aurait procuré à la fois des sommes en liquide, et une certaine clientèle qu'on n'a jamais pu identifier. Mais, dans mon esprit, le scénario du tueur à gages reste le plus probable.
Vous avez pu le faire condamner pour escroquerie ?
Les fédéraux, oui. Mais pour des clopinettes, ils n'ont pu prouver que le sommet de l'iceberg. Mais ça a suffi à le faire radier de l'ordre des médecins et à l'envoyer à l'ombre pour 3 à 5 ans dans une résidence tout frais payée. Si tu as d'autres questions, je te conseille d'appeler David Riggs. Il travaille pour le FBI à Boston. C'est lui qui a mené l'enquête pour fraude à l'assurance santé.
Quand vous avez mis Menk sous pression après le meurtre de sa femme, il a pris ça comment ?
Il s'est montré agressif, arrogant ?
Indigné.
Il avait complètement tourné la page. Comment osions-nous suggérer le contraire ?
Ah, l'indignation. Toujours un bon choix pour un mari violent. La morale outragée.
Eh, il était médecin.
Didi et Griffin gardèrent un instant le silence. Aucun indice matériel sur les lieux, revint-elle à la charge.
Le seul indice, c'était l'absence d'indice.
Comment ça ?
On trouve des empreintes digitales dans la plupart des maisons. Mais pas dans celle-là, comme c'est étrange.
Donc l'assassin a bel et bien fait le ménage derrière lui.
Sang-froid et dextérité dans le maniement de l'éponge. Je penche toujours pour un tueur à gages, et ce type aurait le CV idéal.
Et le deuxième meurtre, Atlanta ?
Je ne connais pas les détails. Je n'en ai entendu parler que par Charlie, et ensuite un agent du FBI, Kimberly Quincy, m'a passé un coup de fil. Elle avait eu vent d'un lien possible entre le meurtre de Jackie Knowles et une affaire à Providence, alors elle se posait des questions. Elle m'a dit que la scène de crime chez Knowles était aussi d'une propreté impeccable, si on fait abstraction du cadavre, toujours.
Didi restait perplexe. Ça ne lui plaisait pas.
Il y a forcément un lien, marmonnait-elle.
Enfin, quoi ? Combien de scènes de crime propres tu as vues dans ta carrière ?
En comptant celle de Randy, une.
Exactement. Donc il y a forcément un lien. Mais lequel ?
La question, rectifia Griffin, c'est qui ? Nous savions que Randy avait au moins un ennemi, son ex. Mais Jackie Knowles, qui avait des raisons de vouloir sa mort ?
L'hypothèse du tueur à gages fait penser à une histoire d'argent, dit immédiatement Didi. Mais deux victimes de deux familles différentes, ça exclut une affaire d'héritage.
Oublie, la pension alimentaire de Randy n'était pas si élevée que ça. Elle avait $30 sur son compte en banque, point barre.
Écoute, dit Griffin en prenant une inspiration.
Je vais devoir y aller dans une minute, mais pour ce que ça vaut, quand j'ai appris pour le meurtre d'Atlanta, j'ai rejeté un coup d'œil dans les hôtels du coin. Je voulais savoir si par hasard une relation commune de Randy et Jackie se serait trouvée dans les parages. Elles étaient amies d'enfance, pas vrai ? Alors peut-être qu'un voisin, un camarade de classe, un ami...
Charlie Blabla Grant, devina Didi.
Je n'ai rien pu prouver, Mais il se peut qu'elle ait réglé la note en liquide. Tu connais le truc.
Oui, Didi connaissait.
C'est elle qui est venue me trouver, tu sais.
Charlie Truc-Truc Grant ?
Oui, elle vit à Boston maintenant. Pour fuir ses voisins, ses camarades de classe, ses amis.
Trois jours avant le 21, murmura Griffin.
Oui, elle voulait me rencontrer en chair et en os. Dans l'espoir que, comme ça, si elle ne survivait pas au 21, je me donnerais plus de mal pour élucider son assassinat.
Merde, dit Griffin d'une voix traînante.
Tu lis dans mes pensées.
Tu devrais appeler Atlanta. Contacter la fille du FBI. Elle a l'air bien. Je regrette de ne pas pouvoir t'aider davantage. Surtout vu les délais.
Didi en convenait. Trois jours pour résoudre deux vieilles affaires pour lesquelles aucune nouvelle piste n'était apparue depuis 2 ans.
Alors, dit-elle avec énergie, si tu étais à ma place, quel genre de personne tu chercherais ?
Un individu fort physiquement, patient mentalement, qui saurait se servir des mots encore plus de ses mains, totalement dénué de scrupules. Sans doute plus doué que la moyenne en informatique, vu que de nos jours Internet est devenu le meilleur ami du harceleur. A contrario, je conseillerais à Charlie, tant qu'elle sera en fuite, de ne pas aller sur Internet. Aujourd'hui, se connecter revient à envoyer des signaux de fumée. Coucou, je suis là. Et puis, creuse la question de l'entourage. Combien de personnes connaissaient réellement ce groupe de 3 femmes ? Tiens, une idée, tu as fait un tour sur Facebook ? On trouve parfois des pages d'hommage, tu sais, dédiées à la mémoire de Randy Menck et ou Jackie Knowles. Vois qui poste des messages et remonte la piste. Ça pourrait te fournir un point de départ.
Beaucoup de temps passé sur une enquête qui n'en est même pas une, grommela Didi.
Puis, dans la seconde qui suivit, elle repensa au capitaine O, au prédateur sur Internet, aux techniques d'apprivoisement et sentit un déclic gratifiant se produire dans un coin de sa tête. 10 semaines de totale privation de sommeil, et elle était encore une déesse.
« Merci, Griffin, » conclut-elle à la hâte. « Tu viens de me donner une idée. »